Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nouvelle interview avec nos amis du Théâtre de Die et de l'association Festival Est-Ouest, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Smetana, bonjour.
Bonjour.
En compagnie d'Isabelle, qu'on commence à connaître aussi un petit peu à l'antenne, voilà, pour le Festival Est-Ouest, et en compagnie également de Sylvaine pour...
Bonjour.
Bonjour à toi.
Bonjour.
Pour le journal du Diwa.
Tout le monde connaît là.
Mais attention Isabelle, qu'à toi aussi, ça va pas tarder. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui puisque ce samedi 16 février, vous Frédéric avec la compagnie Golem Théâtre et vos multiples fonctions que nous allons découvrir bientôt, nous présentez une pièce de théâtre au Théâtre de Die justement, et puis il y a tout un tas d'autres animations à côté, et c'est aussi pour ça que Isabelle sera là pour nous en détailler un petit peu plus. Ce qui est intéressant peut-être pour introduire un peu, c'est qu'on parle de la Maison d'Izieux, comme ça les auditeurs sont au courant. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour commencer?
Alors, donc cette forme scénique, on ne va pas parler de spectacle, même si effectivement le fait que ce soit représenté sur un plateau signifie que c'est quand même un spectacle, est inspirée de témoignages d'anciens enfants de la Maison d'Izieux. Donc on va peut-être un petit peu dire ce qu'est la Maison d'Izieux, qui se situe dans l'Ain et qui est une maison qui a accueilli pendant la guerre, entre 1943 et 1944, une centaine d'enfants juifs qui avaient été recueillis la plupart dans les camps d'internement qui se trouvaient dans le sud de la France et qui ont été accueillis dans cette maison, certains pendant quelques semaines, voire quelques jours, d'autres un peu plus longtemps. Et cette maison a une histoire un peu particulière puisqu'elle est devenue le mémorial des enfants juifs
déportés. Ouais.
Voilà, et dont certains exterminés d'ailleurs. Et mémorial justement qui un petit peu symbolise tous ces lieux qui ont accueilli ces enfants, qui les ont cachés, qui les ont recueillis pendant la guerre. Et il y a 2 ans, la Maison d'Izieux avec qui on était en contact, puisqu'on travaille depuis plusieurs années autour de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'exil des populations européennes, nous avait confié des témoignages qui avaient été recueillis par les historiens de la Maison d'Izieux sous forme de films, d'interviews, qui avaient été retranscrits ensuite par les mêmes historiens. 5 donc anciens enfants, on les appelle toujours comme ça, les anciens enfants de la Maison d'Izieux, qui avaient donc témoigné de leur histoire, de leur parcours, de celle de leur famille, justement au moment de la guerre. La plupart venaient de pays étrangers, donc de pays européens, Luxembourg, Allemagne, Pologne. Et c'est toute leur trajectoire, donc avec leurs parents, au moment où justement ils sont désignés comme indésirables, puis internés, et pour certains malheureusement, dont les parents seront déportés et exterminés. Voilà, donc c'est des souvenirs d'enfants. Alors le danger, c'est de penser que parce qu'on s'intéresse aux enfants juifs exterminés, on va tous se retrouver dans un crématorium. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que finalement, en réalité, étant des enfants, ils ont un vécu d'enfants, même dans des conditions particulières et souvent tragiques. Mais c'est quand même des enfants qui ont des histoires d'enfants, des anecdotes d'enfants, des regards d'enfants sur les choses et qui ont justement des descriptions parfois extrêmement drôles de situations souvent tragiques. Mais voilà, qui décrivent aussi leur quotidien avant que les choses ne se gâtent, puis ensuite des situations un peu moins drôles, mais pour lesquels ils gardent justement ce regard qu'on peut porter à 10 ans, à 9 ans, à 12 ans sur certaines choses. Donc finalement, c'est une parole, somme toute, parfois assez drôle et qui fait rire, même si, par ailleurs, il y a effectivement des choses très, très, très difficiles et très émouvantes et très poignantes par rapport à leur vécu. Donc voilà, je rassure ceux qui diraient « Oh là là, on va encore sortir nos Kleenex pendant une heure », pas du tout. voilà, je vous rassure, c'est finalement quelque chose qui touche plus au témoignage, quelque chose qui est très proche de la réalité, puisqu'on n'a pas touché à leurs paroles dans la forme. On a gardé strictement la parole orale qui a été retranscrite. Donc on n'a pas réécrit, ça n'a pas été littéralisé ou en tout cas transformé. C'est la parole brute de ces gens-là qui est portée par les comédiens, auxquels on a rajouté deux musiciens et puis des sons, tout un univers sonore qui accompagne le propos.
Et justement, comment on travaille avec cette mémoire orale ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a par hasard rencontré la maison d'Izieux. Moi, j'ai demandé bêtement, ce qui m'arrive parfois, de dire, vous n'avez pas des choses qui pourraient être intéressantes, des lettres, des récits, des choses comme ça, sur lesquelles on pourrait s'appuyer, nous, pour faire, par exemple, une soirée de lecture ou des ateliers, des choses. Et voilà, on a imaginé absolument pas faire un spectacle. Et là-dessus, on reçoit 700 pages de ces témoignages retranscrits. On n'a jamais vu les films. Donc, on a reçu ces 5 témoignages choisis parmi ceux qui avaient été...
Et vous n'avez jamais vu non plus les personnes qui ont écrit
Pas tout de suite. Et donc, on en avait 700 pages. Donc, quand on a vu ça, on a commencé à lire, on s'est dit quand même, c'est plutôt intéressant. Il y a des choses formidables là-dedans. Mais bon, 700 pages, ça fait beaucoup. Donc, il va y avoir un gros travail de choix, de pouvoir reconstruire une histoire à partir de ces histoires, pas saucissonner les choses, il y en a un qui parle, puis l'autre qui parle, le troisième finalement s'en fiche au bout d'un moment, parce qu'ils sont un peu les porte-parole de milliers d'autres qui ont à peu près la même histoire. Ce sont tous des étrangers, donc la plupart ne parlent pas français quand ils arrivent en France, donc il y a des tas d'anecdotes quand même assez étonnantes, et voilà, on a commencé à construire d'abord avec Michal, d'un point de vue dramaturgique, à faire des choix sur ce qu'on allait garder, et ensuite on a fini de travailler avec les comédiens, c'est-à-dire en faisant les choix définitifs avec eux. Et donc, c'est construit cette forme, comme ça, au fur et à mesure du travail. Et on a choisi, effectivement, de garder l'oralité intégrale, c'est-à-dire y compris les fautes, les erreurs, enfin, tout ce qu'on peut avoir quand on parle, hein, qui n'est pas une langue écrite, mais du coup, qui sonne d'une manière formidable et qui devient une langue de théâtre réellement, c'est-à-dire avec une substance particulière et qui n'est justement pas un récit littéraire.
Peut-on savoir pourquoi vous êtes intéressé à cette maison d'Izieux ?
Au départ, c'était presque une visite de courtoisie vis-à-vis de la maison d'Izieux. Quand on a commencé à travailler sur cette thématique-là, mais ça fait beaucoup plus longtemps, à Prague d'abord, ensuite en région PACA.
Mais parce qu'il y a un travail de mémoire qui est nécessaire à Michal, par exemple, ou à vous ?
Pas du tout. Non ? C'était vraiment parce qu'on avait continuer, on avait décidé de continuer ce travail en Rhône-Alpes, puisque nous, on est quand même implanté en Rhône-Alpes, même si la troupe est née à Prague, et que la maison d'Izieux était quand même un endroit incontournable quand on travaille sur cette thématique. C'est quand même le mémorial, pardon, qui est rattaché en Rhône-Alpes, en tout cas, à un travail sur la mémoire, sur l'histoire et sur l'exil. Donc c'était en réalité au départ une véritable visite de courtoisie, c'est-à-dire on vient se présenter, voilà ce qu'on fait, bonjour, on peut vous rencontrer. Et ce n'était pas du tout prémédité. L'idée du spectacle est née parce qu'on nous a transmis ces témoignages. Mais on n'avait aucune idée de ce qui était possible ou pas de faire avec eux, finalement. Et c'est à la suite de...
Et même pas de désir premier, quoi.
Non, parce que, bon, on se disait, c'est quand même des gens qui font ce travail-là, mais c'est quand même un musée, ils ont plutôt une démarche pédagogique. Donc nous, on pouvait s'inscrire peut-être dans quelque chose, mais voilà, c'était pas un lieu culturel qui faisait de la diffusion de spectacles. Voilà, c'était réellement pour avoir un contact et puis se dire, on travaille là-dessus ici, c'est normal de vous rencontrer. Comme on a rencontré le Musée de la Résistance de Grenoble ou d'autres partenaires mémoriels de la région. Donc ça a été vraiment un hasard. Et eux, pour eux, en tout cas la personne qui nous a transmis ces témoignages, avait quand même dans la tête de se dire « Il est dommage que nous ayons dans nos archives des choses comme ça, qui peuvent être très précieuses et très intéressantes, et qui finalement, nous, on n'arrive pas à en faire quelque chose de suffisamment ouvert, parce que ce n'est pas notre mission et qu'on ne sait pas le faire, quelque chose qui puisse être transmis au public d'une autre manière. » Et donc, il y avait de sa part à elle une petite volonté quand même de se dire « Et si... » Ces choses-là.
C'est eux qui vous ont senti.
Oui, pouvaient intéresser des gens qui ont la possibilité et la capacité d'en faire quelque chose qui puisse être donné, livré à beaucoup plus de personnes en dehors de nos murs à nous. Et c'est effectivement ce qui s'est passé.
Et il n'y a pas une crainte quand on travaille sur ce sujet-là, justement, que que vous saisiez de ces récits, mais que après ça va leur échapper complètement par rapport à ce que vous allez pouvoir en faire en le traitant de la manière d'un spectacle ou...
On était sous contrôle quand même, hein, je dois dire. La première du spectacle, ils étaient quand même là et on s'est dit, bon, si ça leur plaît, c'est bien. Si ça passe pas, c'est foutu, on arrête tout. C'est normal. En plus, il a fallu quand même demander...
Mais sous un contrôle final, c'est un peu violent quand même. Oui. Si on a bossé 2-3 ans dessus, enfin,
bah,
on en
peut-être
parlera
pas
après,
3 ans, mais bah, c'est sûr que si on monte Molière, on prend moins de risques. Oui. On peut se faire ratatiner par la critique théâtrale, mais c'est tout. Il n'y a personne qui va vous tomber dessus. Là, les témoins sont vivants. Mmh. Il fallait avoir leur accord. La Maison des Yeux est quand même dépositaire de leurs paroles, et c'est normal. Donc elle doit veiller quand même à ce que ce qui se passe avec ça reste quand même en harmonie avec leur propre mission, et qu'il n'y ait pas quelque chose qui trahisse finalement leur voix. Bon, je crois qu'on se connaissait déjà suffisamment pour qu'il n'y ait pas cette peur-là. Mais malgré tout, pour nous, c'était évidemment plus difficile et plus inquiétant que de prendre n'importe quel texte de quelqu'un qui est mort depuis 70 ans ou 150.
Vous parliez de témoins vivants. Donc en fait, à la première représentation, les témoins, donc vous avez recueilli les témoignages, étaient présents.
Ils sont venus après. Ils sont venus donc à la suite de la première création, qui était pour moi en fait un travail en cours. Donc j'avais prévenu, attention, c'est un premier travail, le travail va continuer. Et tout le monde a dit non, mais touchez plus à rien, surtout, voilà, laissez comme ça. Et on a donc été invités pour la commémoration de la RAF du 6 avril 44, donc qui se passe à Lisieux tous les ans, tout de suite après, donc c'était en 2011. Et là, évidemment, il y a la commémoration officielle. Et le soir, il y avait une représentation du spectacle avec tous les invités et de la commémoration, et dont... certains, pas tous, mais trois des cinq enfants, des cinq anciens enfants qui étaient dans la salle. Et ce qui était absolument formidable, c'est qu'on ne savait pas où ils étaient, on ne les connaissait pas, on ne les avait jamais vus. Mais en face de nous, à peu près au milieu, au fur et à mesure qu'un des comédiens parlait et disait le texte, enfin son histoire, il y avait quelqu'un en face qui disait exactement la même chose en face et qui parlait en même temps que le comédien sur le plateau. Donc c'est vrai que c'était assez émouvant quand même cette soirée. Et d'ailleurs ils sont venus nous voir après, et il est tombé dans les bras du comédien en question, voilà, en le remerciant. Donc ça c'était quand même un peu particulier. C'est rare qu'on ait nos personnages en face de nous quand même au théâtre.
Justement ça d'être en train de transmettre quelque chose qui a sans doute marqué, et puis là on vient de l'entendre, ce témoignage qui marque à vie ces personnes, quelque chose émotionnellement très fort qui reste encore.
C'est quelque chose d'assez tôt. D'abord, j'aime pas bien le mot, pardon, devoir de mémoire. Moi, je préfère dire devoir de transmission. Parce que sinon, ça fait un peu mortuaire aussi, oui. Justement. C'est un peu... En réalité,
très bien.
Oui, moi, je pense qu'au contraire, la mémoire, pour qu'elle reste vivante, il faut qu'elle continue à exister et qu'elle soit prise en charge par les gens maintenant, et qu'elle reste quelque chose qui vit et qui soit dans la continuité d'un passé, donc qui appartienne aussi au présent. Si l'époque présente est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu, c'est quand même passé cet événement-là il y a 70 ans. Et je crois que le visage de l'Europe serait complètement différent si tout ça ne s'était pas passé. Donc on est tous héritiers quand même de cette histoire-là, en tout cas en Europe. C'est vrai que s'emparer de ces paroles... les comédiens, il y a deux comédiens absolument formidables qui quand même portent une grosse partie de...
Que vous pouvez présenter.
Donc Philippe Vincenot, donc comédien de Lyon assez connu et excellent comédien. Et Pierre-David Cavaz qui est de Grenoble, lui aussi qui est un vieux de la vieille. Donc c'était pas aisé quand même, hein, parce qu'on porte des paroles de quelqu'un d'autre. En plus des paroles exactes, donc l'oralité de quelqu'un d'autre. C'est pas un texte écrit. Enfin, c'est un texte écrit, mais au départ c'est pas un texte écrit. Et il faut à la fois garder une certaine distance, parce qu'on ne peut pas jouer des enfants. D'abord, on ne peut pas jouer des enfants, et on ne peut pas jouer les anciens enfants qui sont encore vivants et en face de vous. Donc ça demandait de chercher une forme intermédiaire qui ne soit pas un jeu théâtral, comme on peut le faire sur une pièce de théâtre ou un texte dramaturgique classique. Et en même temps, on finit quand même par rentrer dans la parole de ces témoins et la prendre pour soi. Et effectivement, ça, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on est en fait à la place de ces gens, tout en gardant la distance du texte, c'est-à-dire qu'on lit, on le lit, on ne le joue pas réellement. Mais finalement, ça, ça rentre tellement qu'on devient un véritable porte-parole. Donc l'émotion, elle reste entière pour les comédiens, qui finalement ne sont pas des comédiens, mais sont des passeurs. Et pour le public en face qui reçoit ces paroles-là d'une manière nette et telle qu'elles ont été vraiment prononcées.
C'est-à-dire que la dimension empathique est beaucoup plus importante que le rôle de composition qu'on a l'habitude de voir, en tout cas au théâtre ou dans le cinéma.
Le mot extrêmement juste. C'est vraiment une empathie totale. Et qui ne passe pas par le fait d'avoir à représenter, mais d'avoir juste à transmettre et à faire passer.
Alors, quand on sait que ce sont des enfants qui ont à un moment donné posé ces textes avec leur regard d'enfant et donc quelque chose de moins dramatique que ce que des adultes auraient pu le faire, et que maintenant c'est des adultes qui le disent avec évidemment tout le recul, est-ce que vous faites aider psychologiquement?
Non, pas du tout, nous allons tous fort bien. Mais justement, c'est ça qui aussi fait que la chose reste légère, c'est que ce sont des paroles d'enfants. C'est des regards d'enfants, parce que même s'ils le racontent 50 ans après ou 60 ans après, mais au moment où ils racontent ça, ils redeviennent l'enfant et le regard qu'ils portent est celui quand même de l'enfant qu'ils étaient à ce moment-là. Donc avec les mots que pouvait avoir leur enfance qui rejaillit. Je sais pas comment, si on... Mais du coup, ça donne pas quelque chose de psycho, machin, ou de très compliqué, ou d'un regard sur les événements. Il n'y en a pas du tout, il y a une description extrêmement scrupuleuse. Et avec une mémoire, par contre, réelle, qui est quand même assez phénoménale. Il y a une partie où il y en a un qui raconte, justement, quand on vient arrêter tous ses voisins, mais il se rappelle de tous les noms de tous les voisins. À chaque étage, et sur deux maisons. Moi, j'avoue que j'aurais du mal à me rappeler du nom de tous mes voisins quand j'avais 9 ans. Voilà. Et ce genre de détail est incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit, mais effectivement, dans sa mémoire d'enfant, tout ça s'est inscrit avec une précision. Et de cette précision, la précision fait que le pathos est balayé. Parce qu'on s'arrête aux détails concrets, précis. On raconte précisément ce qu'on mangeait, on raconte ce qu'on a vu, les gens, le nom des gens, la couleur de la voiture. Et donc ça enlève tout ce qu'il pourrait y avoir a posteriori, justement, de tragique, où finalement l'événement est déjà passé au crible de la connaissance. Et où on sait déjà ce qui va se passer à la fin. Là, non. On ne sait pas ce qui se passe après, donc on raconte précisément ce qu'on voit sur le moment.
Je voulais rajouter, parce que moi, j'ai vu le spectacle là, au mois de juin, et dans ce que dit la Frédérica, c'est assez juste. Et justement, il n'y a pas besoin de cette forme théâtralisée qu'on pourrait donner, puisque là, la parole est tellement précise que les images viennent. Enfin, il n'y a pas besoin de démonstration, en tous les cas, dans ce texte-là. Il y a une véracité, il y a quelque chose de vivant qui émerge de ces textes, qui est assez impressionnante. Même là, de la façon dont elle raconte, moi, ça me touche vachement émue, comme on l'est tous dans la salle au moment du spectacle. Enfin, c'est joyeux et en même temps d'une émotion, mais assez incroyable.
Frédérica Smetana, j'avais commencé cette interview en vous demandant de vous présenter un petit peu, et j'aimerais qu'on le fasse réellement maintenant. Conception, mise en espace, et puis on vient de passer un petit moment à s'imaginer effectivement cette pièce. Donc vous n'avez pas un rôle de metteur en scène classique, ce ne sont pas non plus des acteurs classiques, vous ne faites pas du théâtre classique ni du spectacle. Alors donc, qui êtes-vous, l'un et l'autre, Michel aussi, et qu'avez-vous fait? Quel est votre travail?
Grande question. Bon, on va répondre rapidement parce que sinon on y passe très longtemps. La compagnie est née à Prague, en fait, il y a une dizaine
Golem
d'années.
Mmh.
Voilà, Golem Théâtre s'appelait Divadlo Navorum, mais on s'est dit on allait changer de nom en France parce que vous auriez du mal à le prononcer quand même. Et donc Michala Zniowski qui est tchèque, moi qui suis française et qui vivais à Prague à ce moment-là. Et on a créé cette troupe. Bon, moi je venais du théâtre et Michal était dramaturge et auteur. Dans des grands théâtres pragois, francophones, et a décidé de quitter les théâtres de répertoire quelques années après la Révolution, sentant que ces espaces-là n'étaient plus favorables à la création. Donc on a créé cette troupe en se disant le mur a été trop longtemps, il y a eu présent entre l'Est et l'Ouest, et surtout en ce qui concerne les arts vivants. Et donc, profitant de nos bilinguismes, on s'est dit, on va essayer de présenter des textes français, mais plus rares en République tchèque, et au contraire, d'amener des choses inconnues, des auteurs de l'Est et de la culture centre-européenne en France. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, donc on a navigué entre les deux, jusqu'en 2003-2004, où là, on s'est implanté, on a immigré en Rhône-Alpes, et plus particulièrement dans le Trièves. Alors, les Tchèques restent à Prague, bien sûr. Les Français sont en France et tout le monde se retrouve pour les spectacles, mais finalement c'est ça l'Europe. Donc on est co-directeur effectivement avec Michal, et par ailleurs, qui par ailleurs est auteur, donc il écrit aussi des textes de théâtre. Donc là il vient d'en écrire en plus en français pour la première fois directement. Et puis moi je suis aussi comédienne, donc je joue aussi. Et puis on continue justement à essayer de chercher des choses qui soient un peu hors des répertoires classiques. Je pense qu'il y en a d'autres qui montent Molière mieux que nous. Donc nous, on s'attache à présenter d'autres textes, d'autres formes, d'autres histoires. Voilà, en résumé.
Et cette thématique autour de la déportation, de l'exil, c'est quelque chose qui vous a suivi, qui suit votre parcours ou c'est récent ?
Non, c'est quelque chose sur lequel on a très bien... On n'a pas travaillé sur la déportation de manière précise. On est parti au tout début, il y a une dizaine d'années, sur la culture centre-européenne entre les deux guerres, qui avait quand même été occultée par le régime communiste quand même pendant assez longtemps, et des choses dont on n'a pas parlé. Il y avait une espèce d'amnésie générale, et qui est quand même une grande culture. C'est-à-dire la culture centre-européenne, donc c'est Prague, Vienne et Berlin. Ça a été quand même en Europe une culture de pointe, on va dire, avec des grands auteurs, que ce soit en littérature, en musique, en sciences. Voilà. Et que c'était un petit peu pour Michal, lui par contre, un devoir de mémoire, de réhabiliter justement tous ces grands noms, dont la plupart sont juifs d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, et de remettre à jour ces gens-là, dont certains sont immensément connus, d'autres moins en France. Donc on est parti là-dessus, puis on a continué donc, à travailler sur cette thématique qu'on a transportée en France. Michal a écrit un texte qui s'appelait « Alma et Franz sous l'excursion en montagne », donc qui parle de la fuite des artistes et intellectuels centre-européens par les Pyrénées dans les années 40, donc artistes et intellectuels qui étaient en exil en France après 1933 et poursuivis par le nazisme. Donc c'est Alma Mahler, en l'occurrence, là, et Franz Werfel, Thomas Mann et d'autres. Donc il a écrit une pièce qu'on a traduite en français et jouée justement en France, à Marseille en particulier, où il y a eu un événement autour. Voilà, et donc on a poursuivi un peu notre quête, on a travaillé sur différentes choses et on est arrivé en Rhône-Alpes, où là, effectivement, il y a eu la rencontre avec Izieux et ce travail autour des enfants d'Izieux. Là, on poursuit sur une autre pièce écrite par Michal en français. Et là, c'est la suite un peu d'Alma et Franz, puisque c'est les exilés à Casablanca qui attendent éventuellement de partir pour les États-Unis. Donc, c'est Casablanca, ce n'est pas le film, mais c'est la même époque et la même histoire. Donc, on est un peu fidèle à cette thématique. Et on a l'impression qu'elle est inépuisable. C'est-à-dire que c'est vraiment les fondements quand même d'une culture européenne qui va malheureusement partir ou être anéantie au moment de la guerre. Mais qui reste pour nous quand même quelque chose d'extrêmement important. Pour nous, je dis européens, quelque chose qui devrait quand même rester un pilier incontournable de notre culture européenne.
Peut-être que ça revient d'ailleurs un peu.
On espère.
On va l'espérer. Je voulais qu'on revienne maintenant sur la dimension, on va dire, extra-théâtrale.
On appelle ça les actions culturelles.
Les actions culturelles du théâtre de Die.
Mais là, on démarre en fait. On a commencé
alors,
ce matin.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Avec Frédérica. Donc, pour préparer au spectacle, donc il y a deux représentations scolaires déjà, donc du spectacle. Ce qui est important, c'est quand même de remettre le contexte pour ces jeunes. Donc là, on travaille avec quatre classes de troisième, une classe de BTS et puis deux classes de primaire. Donc ça fait quand même sept classes. Et donc Frédérica présente un petit peu le contexte historique, puisqu'il n'y a pas encore eu aussi la visite de l'exposition, parce qu'il y a une exposition aussi à la médiathèque. Mais je ne sais pas, peut-être que tu veux parler un petit peu des ateliers, comment tu procèdes pour les ateliers ?
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup associé ce spectacle depuis qu'on l'a créé à des interventions scolaires, j'aime pas bien le mot, mais en tout cas à une transmission aux plus jeunes, je préfère. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu captifs à l'école, donc on leur demande pas leur avis, hein. Mais je pense que ce devoir de transmission, il est important, et que expliquer aux enfants ou aux jeunes que finalement c'est pas si vieux cette histoire, qu'elle peut les concerner d'une manière ou d'une autre, même si leurs familles directement n'ont peut-être pas été concernées par ça, mais, mais que malgré tout, ils sont souvent assez étonnés quand ils se rendent compte que finalement, ouais, c'est pas si vieux que ça. J'imagine que c'est le Moyen-Âge quand même. Hein. Donc voilà, donc c'est important de leur expliquer ça. Et quand ils voient ce truc, voilà, ce spectacle, qu'ils aient quand même les clés pour aussi comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est vrai qu'on fait un peu d'histoire, c'est vrai qu'on fait un peu une réflexion autour de certains thèmes. La propagande, moi j'insiste pas mal là-dessus parce que je pense qu'actuellement on ne peut pas dire que ça n'existe plus. Et qu'il est important de les faire réfléchir aussi sur les outils de la propagande. Alors on prend cet exemple-là, mais on raccorde un peu au présent en disant, et vous, aujourd'hui, vous trouvez qu'on vous pensez librement, qu'on ne vous impose rien. Voilà, sur les notions de liberté, de désobéissance. Est-ce qu'une loi, est-ce qu'on doit lui obéir à toutes les lois, même aux lois injustes? Donc c'est aussi avec les plus grands, peut-être pas avec les CM2, mais en tout cas avec les troisièmes secondes, oui, de la liberté. Est-ce qu'on est toujours obligé d'accepter tout, ou est-ce qu'on a le droit aussi, au nom d'une morale, ou de pouvoir réfléchir aux ordres qu'on vous donne. Donc voilà, ça ouvre quand même à des sujets qui peuvent être quand même très, très actuels. Et donc, on pense que c'est aussi intéressant d'utiliser cet outil-là pour amener aussi des réflexions et puis simplement aussi des outils de connaissance sur un passé très proche.
Est-ce que cette transmission de notre histoire, donc très proche et assez dramatique, prépare une prochaine révolution?
Grande question. Bah, déjà, c'est la révolution de la pensée. C'est la révolution, elle peut venir que par une liberté de regard sur les choses et sur un esprit critique. Donc voilà, moi je pense que la première révolution, c'est déjà de réintroduire l'esprit critique le plus tôt possible. Et moi, je suis assez pour faire de la philo dès l'école maternelle, hein, effectivement.
Donc c'est votre désir quand même, à travers à la fois cette présentation, on va arrêter d'appeler ça un spectacle, puisque c'est ça a l'air compliqué, et puis à travers ces ateliers.
Oui, voilà, moi je pense que les deux peuvent être tout à fait ensemble, enfin elles peuvent aller ensemble. Mais en même temps, j'ai envie de dire, bon, les élèves, on leur fait tout ce travail-là, mais finalement on se rend compte que les adultes ne sont pas forcément plus éclairés sur cette période que les élèves. C'est vrai que il est beaucoup question des camps d'internement français dans leur témoignage. Évidemment, ils sont tous retrouvés à Gurs ou à Rivesaltes, qui sont en zone libre, et d'ailleurs il y en avait même dans la région, il y en avait partout, et sous administration française. Il y a beaucoup de gens à la fin qui disent « Ah mais en fait c'était les Français qui dirigeaient les camps ». Ben oui, en France, beaucoup, oui. Ah mais c'était pas les Allemands, non. Donc finalement, voilà, on en apprend souvent autant aux adultes aussi.
Il y a aussi une exposition, donc ouverte à tous à la médiathèque à partir du 8 février. Donc qui sont vraiment des images d'archives, hein, des photos d'archives de la colonie d'Izieux à cette période-là. Donc c'est pas du tout dramatique non plus. C'est la vie d'une colonie avec des enfants de tout âge. Donc voilà, donc jusqu'au 23 février à la médiathèque. Et il y aura une présentation avec quelqu'un du service pédagogique de la maison d'Izieux, donc le mardi 12 février à 18h30, avec Pierre-Jérôme Biscara, donc qui présentera, qui viendra parler un petit peu de la vie à cette époque-là, donc à la colonie d'Izieux. Il y aura également le mercredi 20 février, alors là c'est plus autour de la sortie d'un livre, avec Philippe Anus, Anita Faisan, enfin bon, beaucoup d'auteurs, puisque ce livre a comme titre « Vercors des mille chemins, figure de l'étranger en temps de guerre ». Donc là, Philippe pourra peut-être venir en parler chez vous à l'occasion, ce serait pas mal.
On voit que Frédérica a écrit dedans un peu.
Aussi, oui, il y a une trentaine d'auteurs, je crois, hein, qui ont participé à cet ouvrage. Donc voilà, ils sont assez nombreux. Et puis, dans la foulée, donc il y aura un documentaire le 20 février au théâtre à 20h30, avec un film du réalisateur Benoît Cornuau qui sera présent et qui s'appelle Destin d'enfants cachés. Donc là, ça se passe plus dans le Berry. Et ce sont les enfants, dans le sud, il y avait ces maisons, mais il y avait aussi des gens, des personnes qui cachaient des enfants juifs chez eux. Donc ça parle vraiment de ce témoignage-là, mais plus dans le centre de la France. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui se passe autour de ce projet qui nous tenait à cœur. C'est venu un petit peu par hasard aussi, grâce à Trajet Spectacle, grâce à un dossier qu'on a reçu et puis grâce à notre rencontre. également. Et moi, après avoir vu le spectacle, c'est vrai que ça m'a tellement bouleversée qu'on a envie de le faire partager. Déjà pour ne pas oublier effectivement ce qui s'est passé, mais effectivement pour nous faire réagir aussi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et ce que tu disais aussi ce matin avec les élèves, est-ce qu'on est libre actuellement et libre de faire quel choix dans notre vie, quelles décisions on prend par rapport aux lois, par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, je trouve que c'est intéressant en tous les cas de le transposer d'une certaine manière.
Je vous taxais peut-être de faire un appel à la révolution, ce qui serait bienvenu, hein, il n'y avait pas de problème. Mais donc,
on est pour aussi.
Le théâtre est pour aussi, très bien. Et d'ailleurs, je voulais compléter tout à l'heure, cette programmation en parallèle, c'est vous qui l'avez choisie,
oui,
c'est pas Golem Théâtre qui vient avec son pack.
Non, c'est nous qui avons mis en place un peu toutes ces actions, oui, tout à fait.
Eh ben, rappelons une dernière fois donc, cette présentation où les gens sont invités à venir samedi 16 février à 20h au Théâtre de Die. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Est-ce qu'on peut vous trouver quelque part sur Internet suivre vos activités ailleurs
Absolument. On tape www.golemtheatre ou hôteleuropa.fr qui est en fait le nom de l'association. En général, on nous trouve.
Sylvaine ?
On va pouvoir aller voir, je pense, ce spectacle le 16 février. On a hâte de le voir, de le découvrir.
Merci à toi. Merci Frédérica Smetana.
Ben merci.
À bientôt, j'espère.
À très bientôt.
Pour autre chose. Et en Rhône-Alpes, on n'est pas loin. Et puis merci encore une fois, Isabelle Catois, pour le Festival Est-Ouest Théâtre de Die. À bientôt.
Merci à vous.
Et donc, rendez-vous samedi 16 février à 20h. Pour, on l'a même pas dit vraiment le titre de
ah
ce
oui,
spectacle.
Quand même, il est bien.
Ouais. Alors, je te laisse le dire.
Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves.
Merci.
Interview.
Okay. The bird.
L'interview du jour.